Jazz Fact. Thomas Corbillon. FIP. Jazz Fact. Thomas Corbillon.
Si vous écoutez en ce moment même Jazz Fact en podcast, vous venez de vous dire « Tiens, c'est bizarre, il y a deux fois le générique ». Et non, on est bien en direct. Merci Gaëlle Renard.
Mais de rien.
Redis Jazz Fact pour bien montrer qu'on est en direct.
Jazz Fact.
Ouais. Car aujourd'hui, on parle du générique du podcast de Jazz Fact. Vous savez, ces notes de saxophone. Tenez, on les réécoute. Ce jeu de saxophone alto, si lyrique, empli de blues et de soul, c'est celui de Julian Cannonball Adderley. Car en 1958, Adderley est invité par l'arrangeur Gil Evans pour participer à un album qui s'appelle New Bottle, Old Wine, traduisez du vieux vin dans une bouteille neuve. Le concept est simple, revisiter des morceaux ayant marqué les 30 premières années de l'histoire du jazz en les habillant avec de nouveaux arrangements, ceux de Gil Evans, qui est un disciple de Claude Thornhill et admirateur de Billy Strayhorn. Il a notamment orchestré le cultissime Miles Ahead pour Miles Davis un an avant cet enregistrement. Et le morceau en question, celui dont est tiré ces notes de Cannonball Adderley, c'est St. Louis Blues. St. Louis Blues. Je répète, St. Louis Blues. Je le dis plusieurs fois parce que c'est un monument de l'histoire du jazz et même de l'histoire de la musique américaine et de la musique tout court. Oui, oui. Car St. Louis Blues est l'un des premiers blues à être officiellement publié, composé par l'autoproclamé père du blues. Tout démarre à la fin du 19e siècle avec un certain William Christopher Handy, plus connu, beaucoup plus connu même sous le nom de W.C. Handy, un jeune homme issu de la classe moyenne africaine-américaine, né en 1873 dans l'Alabama. Très tôt, et grâce à cet environnement social privilégié, enfin davantage que celui d'autres Afro-Américains, j'entends, il a la possibilité d'accéder à un enseignement musical académique. Et il est si passionné par ses cours de solfège et de cornet qu'il se destine au métier de musicien professionnel, ce qui n'est pas du tout du goût de son père pasteur, et même d'ailleurs même de son professeur. Mais W.C. Handy est ambitieux, il persiste donc et tourne au sein d'un quartet vocal, mais il est aussi à la tête d'orchestres de danse qui interprètent de la musique classique légère, de la musique pour danser comme des quadrilles, mais aussi un peu de ragtime. Mais sa curiosité l'amène en plus à s'intéresser à des musiques jugées plus folkloriques, ce qui à l'époque n'était pas forcément du goût de tous les musiciens ayant son bagage académique. Et c'est lors de ses tournées, en particulier dans le sud des États-Unis, qu'il va petit à petit collecter puis réunir les chansons et le vocabulaire musical de ceux qu'il entend le plus souvent, des musiciens de rue ou même des travailleurs. Écoutons-le raconter justement les premiers souvenirs qu'il a de ses chansons.
J'ai eu la chance de vivre deux ans dans l'état du Mississippi et d'entendre les ouvriers chanter. En fait, j'avais déjà eu l'opportunité dans ma ville natale de Florence, en Alabama, d'entendre les hommes qui travaillaient dans les fourneaux des usines. Ils chantaient tout en travaillant comme ça.
Et comme W.C. Handy a une très bonne oreille, il arrive à se rappeler facilement de ses mélodies et son bagage théorique lui permet de les mettre par écrit et d'une certaine manière de les codifier. Beaucoup de musiciens s'entendent pour dire qu'il n'est donc pas l'inventeur du blues, mais qu'il est plutôt celui qui a collecté les informations, les témoignages, puis les a regroupés pour en faire une forme musicale plus organisée. On a appelé ça le blues. Et après avoir composé un premier blues en 1912, appelé Memphis Blues, il écrit donc St. Louis Blues deux ans plus tard, en 1914, sur le même principe, c'est-à-dire en assemblant des bouts de mélodie, mais aussi des phrases, des paroles, le tout entendu lors de ses différents voyages. Et St. Louis Blues est donc l'un des premiers morceaux à réunir à la fois l'académisme des chansons de compositeurs de Broadway, mais aussi un phrasé issu des chanteurs de rue et des travailleurs noirs américains. Et c'est donc au début des années 20 un très grand succès commercial. Écoutez, c'est la version du propre orchestre de W.C. Handy, on est en 1922.
Thank you.
Vous avez vu, ça peut paraître un peu raide, en tout cas loin du blues. On y entend plusieurs parties, ce qui fait aussi là la particularité, la complexité de ce morceau. Mais là où on peut réellement se rendre compte de sa popularité, mais aussi de sa richesse, c'est en écoutant la multitude de reprises dont il a fait l'objet et dans des styles très différents sur plusieurs années. Django Reinhardt en 1935. Ou le précurseur de la folk américaine Pete Seeger.
I hate to see that evening sun go down. I hate to see that evening sun go down. Cause my baby, she done left this town.
Ou notre fameuse version du générique Cannonball Adderley avec Gil Evans. Ou alors la fantastique version d'Herbie Hancock et Stevie Wonder en 1998. Même les Troublemakers, ce groupe marseillais qui sort en 2001 un sample de St. Louis Blues d'Etta James. Mais la version qui restera sans aucun doute comme celle qui retranscrit au mieux l'esprit du blues, c'est celle de la chanteuse Bessie Smith en 1925. On va l'écouter en entier. Elle y est accompagnée par Louis Armstrong au cornet, il a tout juste 24 ans. Et allez voir les images de la vidéo qu'elle a enregistrée, la seule de Bessie Smith qui existe. On est en 1929, elle y chante dans un bar la même chanson St. Louis Blues, entourée d'un cœur dans le public. C'est absolument incroyable. Celle de Bessie Smith, donc cette version pour Edwina Andy d'Acosta, l'arrière-petite-fille de W.C. Andy. Les premiers blues, en fait, ce sont les cris et les chants des esclaves. Là où St. Louis Blues, c'est la musique, l'amour et les rires des premiers noirs libres de l'esclavage.